Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 84e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement d'affaires. Ce matin, on va recevoir Cindy Feld de YAC. Mais avant, je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment de votre journée, de votre semaine, de votre mois peut-être, qui sait, pour écouter le show. Découvrir ce qu'on fait ici dans le meeting des ventes du lundi. Le principe est assez simple. Lundi matin, 8h, je suis live sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Et par la suite, le show est redistribué sur différentes plateformes, que ce soit LinkedIn, YouTube, Facebook, bien évidemment, mais il est aussi disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et toutes les autres belles plateformes de podcasts que vous pouvez utiliser. Donc, sans plus attendre, je vais faire entrer Cindy. Bon matin, Cindy.
Bon matin, Simon, ça va?
Ça va super bien, toi?
Yes.
Good. Écoute, content de te recevoir dans le 84e épisode du Meeting des ventes du lundi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Cindy, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, tu fais quoi? C'est quoi YAC? Tu sais, si on faisait le 45 secondes, pitch elevator. Ouais.
First, merci Simon pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Donc moi Cindy, je représente mon entreprise que j'ai cofondée avec Nicolas Milo, on s'appelle YAC. Nous, qu'est-ce qu'on fait si je te fais vraiment la version hyper short? On est des gentils hackers, on vient hacker les entreprises, sauf qu'à la place de déployer un ransomware ou de voler des données, on vient remettre un rapport et expliquer comment est-ce qu'on est rentré pour éviter que ça arrive. Donc on est en cybersécurité et on se focalise vraiment sur le volet offensif.
Donc vraiment le ce qu'on appelle... Les penetration tests, ces choses-là.
Exactement, ouais, c'est ça.
OK, et du côté, dans les termes de hacking, vous êtes des white hat et pas
exactement.
Des black hat.
Exactement, c'est ça.
D'accord.
Ouais. Allez, je rajoute quelque chose rapidement, parce que souvent, on se fait poser la question dans les 5 à 7, on le fait avec un contrat du client d'abord. C'est pas avec les entreprises de façon random et après on leur dit, hey, il y en a qui font ça, c'est gray.
Mais éthiquement, Cindy, si une entreprise qui fait ça, mettons moi, là, mon site web, mes trucs, je me fais hacker par une entreprise ABC Hacking, par exemple. Je n'ai pas donné de contrat. Comment tu perçois ça?
Alors, sur des réseaux internes, c'est notre game. Là, pour les sites web, il y en a qui font ça et qui vont écrire hey, « j'ai trouvé telle affaire » et qui espèrent une récompense ou quelque chose. C'est limite. Mettons qu'il y a des entreprises qui le permettent, ce qu'on appelle les programmes de bug bounty. Les grandes entreprises en font et le gouvernement du Québec l'a mis en place il n'y a pas si longtemps que ça. Ou effectivement, là, c'est une invitation. Venez, vous trouvez, voici combien vous aurez. Mais l'entreprise, out of nowhere, surtout si tu es une entreprise, c'est quelqu'un qui le fait tout seul. Je ne dis pas que c'est mieux, mais c'est un peu moins contrôlé. Mais quand tu es une entreprise, non, prends le contrat d'abord. Et en plus, même d'un point de vue stratégie d'affaires, tu n'as aucune garantie que le client va te payer, il ne va pas te poursuivre.
Non, mais c'est ça.
Je ne le recommanderais pas.
D'accord. Question que j'avais, YAC. Ouais. Le YAC, c'est un animal?
Yes.
Si je ne me trompe pas.
Ouais.
C'est quoi le lien avec le hacking?
Alors, il y a eu plusieurs points. Mais déjà, YAC, forcément, ça ressemble à hack.
Oui.
On aime la vibe de l'animal. C'est un animal qui est quand même relativement tranquille de base, mais tu n'as pas envie de le tanner avec ses cornes.
Non, probablement pas.
C'est une philosophie qui vient bien avec. C'est un nom qui est quand même punchy et qui est court. Et c'est un mot, j'ai oublié le nombre de points qui vaut au Scrabble, mais c'est un mot de la langue française qui fait qu'on a pu s'incorporer avec ce nom aussi.
Ah, d'accord. Ce qui est toujours, tu sais, puis on ne se le cachera pas, c'est toujours un défi, là. Je faisais un post la semaine dernière, mais trouver un nom original, le nom de domaine est disponible, tout ça.
Ouais.
Et pour demeurer en règle vis-à-vis l'Office de la langue française, on rajoute une couche de complexité à toutes les fois.
Ouais, donc, ça a marché, on est passé par YAC tout seul. Officiellement, on est YAC Sécurité, parce que YAC, ça ressemblait à trop d'autres noms, mais notre petit nom au quotidien, c'est YAC.
C'est YAC. Puis là, tu me parles de YAC, et pour ceux qui nous écoutent en audio, ne le voient pas nécessairement, mais Cindy porte un superbe hoodie sur lequel il y a un panda, il y a un hashtag qui est écrit « Sauvons les pandas ».
Yes.
Fait que là, le curieux en moi se pose beaucoup de questions.
Yes, en fait, pour l'anecdote, c'est qu'il y a quelques mois, on avait sorti un article de blog, un peu un guide avec 5 conseils sur la cybersécurité, mais pour casser un petit peu le volet très corporate de la façon dont c'est écrit en général, on l'a fait un petit peu plus drôle. Et il y avait un des conseils, ça commençait par « un panda meurt dès que quelqu'un utilise le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, après on parle des passwords ». Ça a fait rire pas mal le monde, on a comme lancé en joke le hashtag « sauvons les pandas ». Et samedi, le 16 mars, c'était la journée internationale du panda.
Ah, d'accord.
Après qu'on a décidé de sauver les pandas pour vrai et on a lancé une cagnotte. On incite justement les gens à donner pour sauver les pandas et Yak a donné 1022 $ qui correspond au nombre de vulnérabilités de Microsoft en 2023.
Ah, ok, c'est...
Je
j'aime le
pourrais
petit
mettre
clin
le
d'œil.
lien dans le chat
Ouais,
par la
mais
suite.
si tu peux le mettre ou me l'envoyer.
Sauvonslespandas.com. On
Ah
parlait
oui,
d'acheter
j'avais.
des DNS, on a poussé loin là.
Ah, ok, fait que moi, si je vais aller donner des sous aujourd'hui ou plus tard cette semaine, je vais sur sauvonslespandas.com
Yes. Ça
puis je
redirige
peux.
vers la page, ouais, de WWF.
Ok, donc c'est la World Wrestling Federation? Non? Non, je suis trop vieux.
Je sais
Ça
même
fait
pas
plus,
ce que
mais.
ça veut dire WWF, mais c'est exactement le petit logo avec les pandas.
Ouais, en fait, pour la. Moi, je suis un puits sans fond de choses inutiles, mais la WWF, jadis, naguère autrefois, quand j'avais une dizaine d'années, c'était la lutte. Et ils ont changé pour WWE, donc World Wrestling Entertainment,
Ok.
parce qu'il y a eu un conflit au niveau des marques. Tu vois, où est-ce que. Tu sais, j'en parle souvent, mais l'importance d'avoir une marque claire.
Ah oui, il y a des noms qui se ressemblent, des fois,
Et
c'est.
tu le perds. Cindy, comment t'en es venu à lancer ton entreprise? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, tu es entrepreneur?
J'ai un parcours, je veux dire atypique, mais de nos jours, l'atypisme est devenu la norme. De plus en plus, on est moins sur des
Ouais.
parcours linéaires. Moi, à la base, j'ai étudié en vente et marketing, puis je suis allée dans l'hôtellerie. Donc, absolument aucun rapport avec la cybersécurité. Pendant quelques années, j'étais aux ventes dans des hôtels plutôt 5 étoiles, etc. En vente, c'est-à-dire gérer les contrats avec les entreprises ou les événements sur place. Quand vous allez à des événements corporate, ben, c'était ma job de l'autre
OK.
côté d'organiser ça. Puis, je suis partie un an en Australie faire un Working Holiday Visa par rapport, mais je suis revenue, j'avais plus envie de faire de l'hôtellerie. Je me suis perdue un an en automobile chez Audi. Expérience très difficile. Je tire mon
Ah
chapeau, vendeur auto. On pense que c'est facile. En tout cas, l'expérience que j'ai eue, ça a été une de mes jobs les plus difficiles. Parce qu'il y a
ouais.
beaucoup de complexité.
Ben, puis on se cachera pas, je sais pas comment ça se passe en France, je sais qu'ici t'as une chance. Le client rentre une fois dans une concession. Si tu réussis pas à sécuriser là ta vente, les chances que tu conclues sont quasi nulles.
J'étais en véhicule neuf, mon cycle moyen, la durée de vente était de 3 à 4 mois.
Oh, quand même.
Parce que c'est des ventes, c'est du neuf. En occasion, t'arrives, tu veux un char. Là, les gens commençaient à checker un petit peu pour leur renouvellement. Ils font je ne sais combien de simulations, de configurations. C'est nous qui faisions les reprises, c'est nous qui faisions les
OK.
financements. C'était beaucoup de choses à apprendre en peu de temps. Fait que ça a été une expérience assez longue. Puis après ça, je suis arrivée au Québec.
Oui.
Je suis retournée rapidement dans l'hôtellerie, parce que ça a donné. Je me suis perdue un petit peu en bout de chemin à savoir ce que je voulais faire. Et j'ai voulu quitter les ventes parce que dans mon passé, ça a toujours été, surtout dans l'automobile, il faut que tu sois un requin. Moi, vendre ma mère pour faire une vente, ça ne fit pas avec mes valeurs. Fait que j'ai voulu sortir de la vente. Les RH m'intéressaient. J'ai eu ma chance dans une start-up de sécurité, justement. Donc, je
OK.
suis rentrée là-dedans parce que le président avait compris qu'aujourd'hui, dans les TI, les RH, c'est de la vente et du marketing. Il faut que tu arrives à créer ton image de marque et à recruter. Et petit train va loin, ben, je dis, hey, mais je peux prendre les ventes et le marketing aussi. Donc j'ai pris au fur et à mesure. Donc je suis restée là 4 ans. En cours de route, ben, j'ai découvert la cybersécurité et j'ai découvert une passion. Ça m'a vraiment allumée. Fait qu'il y a à peu près presque un an, ben, j'ai lancé. Il y a toujours voulu avoir ma compagnie.
Ah
Ça a toujours été un projet, sauf que j'avais aucune idée quoi.
oui? OK. Donc, même jeune, tu savais que tu voulais être entrepreneur.
Je savais juste pas quoi faire.
OK. Puis, qu'est-ce qui a fait que. Qu'est-ce qui t'a intéressé particulièrement au niveau de la cybersécurité? Qu'est-ce qui fait que c'est ce que tu fais aujourd'hui?
La première chose que j'ai vraiment adorée et qui m'a interpellée, c'est que, comme dit, petit rappel, moi je viens de l'hôtellerie et de la restauration de luxe, qui est un des métiers qui est le plus décrit comme un métier passion. En travaillant en cybersécurité, c'est la première fois où j'ai vu des gens aussi passionnés par leur job. Tu leur arrives avec un nouveau dossier à traiter, ils sont tout énervés, ils sont contents, tu sais, oui, il y a la journée de travail, mais ils continuent à hacker le soir, les fins de semaine. Tu travailles avec du monde qui est vraiment passionné. Donc là, ça change complètement une dynamique, surtout. Tu connais la vente hein, quand tu arrives et que tu es genre, hey, j'ai vendu quelque chose, c'est que ça te génère de la job. En hôtellerie, je n'étais pas accueillie avec des
Ouais,
roses,
ben,
là.
d'accord.
Et là, ça a changé. Et la passion est communicative. Et surtout, ben, mon partenaire, Nicolas, j'ai parti ça avec Nicolas Milo. Moi, je suis le volet business de la compagnie et Nicolas, c'est le volet technique hacker. Il m'a
OK.
vraiment genre juste insufflé sa passion, c'est le voir aller, ça. Donc, j'ai commencé à bah déjà forcément par mon expérience, c'est moi qui faisais les ventes et de la vente en cybersécurité, c'est du conseil. Si c'est pas quand tu parles, t'as aucune chance. Donc j'ai vraiment appris sur le tas, je me suis formée on the side et je suis juste tombée amoureuse de ce secteur-là et c'est très important. Aussi, si on a une mission pour vrai, là, on protège des entreprises. On en a vu fermer, c'est pas drôle.
Ah oui, il y a des clients qui ont...
pas des clients, mais dans la communauté, tu parles à du monde et on donnait une conférence avec quelqu'un il n'y a pas longtemps et il sait comment retenir l'attention de son auditoire. Quand il commence par, depuis le 1er janvier 2020, j'ai fermé 11 entreprises au Québec suite à une cyberattaque.
Toutes les celles qu'on connaît et celles où est-ce que c'est su et connu que c'est une cyberattaque, parce que on se le cachera pas, Cindy, il y a sans doute un paquet d'entreprises qui sont attaquées, qui, en bon français, ferment leur gueule et 4-6 mois plus tard, passent en dessous.
Normalement, il y a l'obligation, surtout s'il y a des données clients qui ont été perdues, il y a l'obligation de le
maintenant,
lire. Mais même l'obligation... Tant qu'on dit pas vu, pas pris, hein, comme on dit toujours. Donc, s'il y a des gens qui vont rien dire ou qui vont. Ou même qui ne s'en rendent pas forcément compte. C'est sûr qu'un ransomware déployé, tu t'en rends compte. Tu as tout qui est down, mais tu ne sais pas depuis combien de temps l'attaquant il est là. Si ça se trouve, avant de te mettre ton ransomware, il a pris toutes tes données, il a pris le temps, il a ramassé tout ce qu'il avait à ramasser. Et quand il avait tout, bon, OK. Maintenant, on met la rançon.
OK. OK. Puis. C'est moins. Tu sais, pour les gens, c'est quand même nébuleux. Si on parle de cybersécurité. Ouais. On se dit tous, tu sais, ben, moi, je suis une petite PME au Québec, j'ai pas de danger. Tu sais, le fameux, j'ai pas de danger, ça m'arrivera pas, j'ai rien qui a de la valeur. Est-ce que c'est vrai, ça?
Non. La problématique, c'est. Alors, déjà, je vais y aller sur deux volets. La première, peut-être que toi, t'as l'impression que t'es pas important, mais tu es le fournisseur d'une grosse entreprise. Excusez-moi.
OK.
Si t'es le petit. Les hackers, ils veulent aller au plus simple. Ils vont chercher c'est quoi le maillon faible de la chaîne d'approvisionnement. Mmh. Ils savent, je veux dire des bêtises, ils se doutent que Bombardier, ils ont une sécurité plutôt top-notch. Ouais. Et peut-être que le petit fournisseur qui vend des vis à Bombardier, bah, peut-être que lui, il est complètement une passoire, mais il a des accès. Fait que first, tu peux être visé pour aller toucher un de tes clients. Et d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que je suis convaincue qu'il y en a beaucoup qui ragent et qui sacrent parce qu'ils se font demander des requis de sécurité qui n'ont pas d'allure à la taille de l'entreprise, qui sont pour faire affaire avec des grands donneurs d'ordre, mais c'est pour ça. Si on regarde la presse, quand il y a des grosses fuites de données, etc., ou des attaques, il y en avait une avec, c'était Post Canada, où tu avais tous les articles, c'est écrit Post Canada, mais quand tu lisais l'article, tu voyais que c'était pas eux, c'était un des fournisseurs qui avait été hacké. Mais c'est eux qui finissent à la une, ça les tente pas, fait qu'ils durcissent vraiment beaucoup. Donc là, tu peux être ciblé, pas pour toi, mais pour attaquer un autre. Et l'autre affaire, c'est comme les phishing que vous recevez, ils pêchent à la dynamite, les hackers. Ils envoient at large. Ah, il y en a un qui a pogné, ok, ils y vont. Et si c'est facile et que ça leur prend 2 secondes,
ok, dans le fond, ma vision des choses, j'ai déjà, tu sais, jasé de ça avec mes parents. Tu sais, mes parents, c'est des bons boomers, là, mi-soixante-dizaine, et des mots de passe parfois un peu douteux. Là,
il y a des gens mi-vingtaine qui ont des mots de passe douteux. Fait que
c'est oui.
D'où le hashtag souvent les pandas. Les passwords, c'est la pire affaire en ce moment.
Mais, ouais. Mon père dit, il n'y a pas de danger. Mais là, non, c'est des robots, c'est des scripts qui tournent, qui essaient un paquet d'affaires. Puis quand il en pogne un, ça, c'est flagué. C'est pas le hacker, comme on voit dans les films, qui a décidé qu'il allait hacker ABC Entreprise du Québec. Puis il rentrait dedans, il a envoyé un robot. Le robot a perçu une vulnérabilité, puis là, c'est là qu'il sort. C'est ça?
Oui, c'est ça. Et si je peux donner un conseil à ceux qui nous écoutent, je vais être tannante avec les passwords, et je sais justement que c'est la partie la plus tannante, mais c'est parce que c'est vrai. J'ai un mot de passe long de même qui est super compliqué, mais je le mets partout, ça ne marche pas. Parce que justement, il y a beaucoup de fuites de données, et ça, ce n'est pas votre faute, je vous l'accorde. Il y a eu LinkedIn, les gros. Si vous avez votre mot de passe partout, les hackers, ils vont récupérer le courriel et votre password et ils vont l'essayer partout. D'où l'importance d'avoir des mots de passe séparés. C'est sûr que humainement, ce n'est pas possible, mais il y a des gestionnaires de mots de passe.
Tout à fait. Moi, j'ai découvert ça dans les dernières années. Je vais dire, je ne sais pas où tu la positionnes dans ton univers, mais Emeline Manson, moi, m'avait parlé à un moment donné de Bitwarden que j'ai ajouté à mon coffre à outils. Ouais. Et, tu sais, pour moi, ça m'a sauvé.
Non, mais ça, les gestionnaires de mots de passe, ça a l'air effrayant. Sûr que la mise en place peut être un petit peu longue. Puis tu leur donnes l'avantage, effectivement, c'est qu'ils ont une offre gratuite. Nous, on pousse beaucoup One Password pour les entreprises. Entreprises canadiennes, oui, elle est payante, mais ça vient avec des coffres en privé pour la famille, etc. Et puis tu leur donnes, c'est très, très bien. Surtout tant qu'on nous dit qu'on a un gestionnaire de mots de passe, on est genre. Et que vous
Ben, déjà
l'utilisez.
ça.
Mais même en UX, ça. Moi, j'ai un iPhone, j'ai jamais essayé sur Android, mais je pense que c'est la même chose. Tout se fait automatiquement. Ils te proposent des mots de passe, ils les rentrent automatiquement, même le tout est fait. Juste en expérience et en facilité, ça te simplifie la vie pour vrai.
Non, ben,
Plus
moi,
jamais je reviens en arrière. Hein.
non, moi, tu sais, puis j'ai, comme je te disais, Bitwarden, j'ai un Android, ça se fait, tu sais,
Parfait.
j'y vais avec mon pouce, ça débarre, ça se rentre, puis j'ai des mots de passe, je pense que j'ai mis partout, c'est du 24 caractères, écoute, j'ai aucune
Ah, t'es
idée,
parfait.
si je
Je les
perds,
connais
si
bien, mes mots de passe. Je les connais pas. J'en connais un, celui-là de mon mot de passe.
mon master, qui est aussi ça de long, puis mais, trouve-le avant de. Je devrais pas dire ça en ondes comme ça, là. Des fois qu'un hacker décide, parfait, mon grand, je vais le trouver.
À moins que c'est vraiment quelque chose qui est très. Genre une phrase qui t'est propre, 24 caractères, c'est impossible.
Non, c'est ça, c'est
Mais
ça.
les paraphrases, c'est des bons moyens de se rappeler des phrases. Tu mets. Ça va
C'est
être
quoi
une
une paraphrase?
phrase, une paraphrase où tu t'écris une phrase carrément.
Ouais.
Une phrase, tu vas la retenir facilement, mais ça
OK.
fait une longueur qui est incroyable.
OK.
Ou plusieurs mots côte à côte. C'est
Ah
plus
ouais.
pour retenir le mot de passe principal, mais s'il vous plaît, ouais, prenez des gestionnaires de mots de passe. Ça va
Fait
vous
que.
sécuriser, ça va vous simplifier la vie. Et pour ceux qui ont des employés, fournissez-les à vos employés. Parce que c'est bien beau de leur dire à tout qu'il faut des mots de passe plus complexes, différents, etc. Ce n'est pas des robots, ils ne vont pas s'en rappeler. Donc, si vous leur imposez ça, vous risquez d'avoir un document Excel avec des mots et passwords que tu veux absolument pas. Donc, il faut leur donner des
Oh.
moyens de le
Oui,
faire.
effectivement, tu sais, t'as un bon point en disant, parfait, ben là, moi, j'ai un paquet de mots de passe compliqués, mais plutôt que de payer 3,99 par mois, mon gestionnaire de mots de passe, je vais avoir un beau fichier Excel sur mon.
Ben ça, vous
Avec
faites
tous mes.
hacker, vous cliquez sur un phishing. Vous venez d'offrir le jackpot au hacker. Il a genre, oh waouh, j'ai tous ces mots de passe, malade. Non, honnêtement, c'est pas une. Je préfère encore le calepin que le Excel.
Ouais. Puis. Moi, je dis souvent, où il y a de l'humain, il y a de l'humainerie. Est-ce que je me trompe? En cybersécurité, le point faible partout, c'est rarement la technologie, c'est généralement l'humain qui interagit.
Ben c'est forcément l'humain, parce que même si on prend la technologie, c'est des humains qui la configurent.
Ouais.
Nous, par exemple, pour donner un indice sur comment est-ce qu'on fonctionne, et là, je vais parler des tests d'intrusion qu'on fait sur les réseaux internes des entreprises. Pas les sites web, c'est vraiment ton réseau, ton entreprise. Nous, ce qu'on fait, c'est on fait des scénarios d'assume breach. On assume que Ginette à la compta, elle a cliqué sur le lien, elle n'aurait pas dû. Ginette n'aurait pas dû cliquer sur le lien. Mais logiquement, si le réseau est bien configuré, l'attaquant pourra faire des dommages uniquement sur ce que Ginette a accès. Donc, ça devrait être quand même limité. Malheureusement, à date, nous, on est à 100% de compromission de domaine. Ça veut dire qu'en hackant quelqu'un à la compta ou à la réception, on est capable, ce qu'on appelle escalader nos privilèges, donc devenir administrateur d'autres systèmes, et on se rend à ce qu'on appelle contrôleur du domaine. Le domaine, c'est ce qui gère toute ton entreprise. Et c'est là où, justement, on peut déployer un ransomware. Parce que ce n'est pas vrai que le hacker, il rentre dans chaque ordinateur et il
Non.
déploie son ransomware. Il arrive tout en haut et il pousse ce qu'on appelle une règle de GPO. Qui vient juste dire, ben, je veux que tous les ordinateurs ils exécutent tel programme. Et c'est comme ça. Mais ça reste
Ouais,
de l'humain, parce que sinon, les mots de passe. Souvent, on compromet avec des mots de passe qui sont mots de passe par défaut, réutilisés, un Excel qui traîne quelque part où ça ne faudrait pas, des configurations qui n'ont pas été faites correctement, ou qui n'ont
Ouais.
jamais été modifiées de base. Ça reste justement de l'humain. T'as beau avoir une super technologie, et ça aussi, c'est. Il y a beaucoup de produits de cybersécurité maintenant, c'est rendu un monde absolument incroyable, personne ne peut s'y retrouver. Avant d'investir des milliers, enfin, je ne sais combien de centaines de milliers pour avoir tous les produits, il y a beaucoup d'hygiène de base. Commence par ton hygiène de base. Il y a des produits que tu n'as pas le choix, comme ce qu'on appelle un EDR, c'est les antivirus ou stéroïdes. Mais avant d'acheter plein de patentes, commence par ta sécurité de base. Que tu peux avoir tous les produits du monde, ta sécurité de base, elle n'est pas bonne et j'aime faire l'analogie. Mettons, tu protégeais ta maison. T'as pris une porte blindée, des caméras, tout ce que tu veux, mais t'as laissé la porte de derrière ouverte.
Ça sert à rien.
Exactement.
OK, intéressant. Écoute, c'est un monde fascinant, on va se le dire, là, puis
Ah, c'est le
c'est
fun.
pas. Puis c'est pas une question de si, quand. En fait, c'est pas une question de si on va se faire hacker, mais c'est une question de quand. Je pense que
Exactement.
tout le monde, tu sais, tout le monde ici, tout le monde qui nous écoute, un moment ou un autre, on va se retrouver dans une situation où est-ce que notre on va avoir été compromis. C'est quasi une certitude. Fait que belle sécurité d'emploi pour vous autres, par exemple.
C'est sûr qu'on a de la job, mais juste dans les, même dans la façon de penser, je ne sais pas si tu avais eu le même réflexe, mais il y a une ou deux semaines, il y a back-à-back, il y avait Meta et LinkedIn qui ont été down. Et Meta, la façon dont c'était fait, c'est qu'ils te refusaient ton password. Tu essayais de te connecter, ils disaient que ce n'était pas valide. Quasiment tout le monde a pensé que c'était fait hacker leur compte. Mm-hmm. Premier réflexe, ça a été je me suis fait hacker mon compte. Pourquoi ? Ouais. Parce que donc, c'est une possibilité, donc arrange-toi pour que ton mot de passe, justement, soit bon avec un tout effet. C'était le premier réflexe. Tout le monde s'est dit « Oh, je me suis fait hacker mon Facebook. »
Ouais. Puis le two-factor authentication, ça demeure que ça peut paraître chiant les premières fois, mais...
Pas si t'as ton gestionnaire de mot de passe qui va te les enregistrer automatiquement.
Effectivement. T'sais, moi, avant d'avoir mon gestionnaire de mot de passe, je ne touchais pas à ça parce que je disais « Là, j'ai pas juste ça à faire. » Puis ouais. Et là, c'est rendu merveilleux. Là.
Ouais. Et ça protège, selon Microsoft, 99,9% des attaques. Ouais. Oui, tu peux faire une attaque sur un tout effet, c'est pas inviolable. Mais ça demande de l'effort de l'attaquant. Mm-hmm. Pour ceux qui cachent la dynamite, ils vont passer au prochain appel. « Oh, il y a un tout effet. OK, next.
Ben, » c'est si... ça. Pour un peu ce qu'on disait tout à l'heure, si c'est... ils vérifient, puis comme tu dis, c'est la loi du moindre effort. Mm. Par contre, s'ils visent ton entreprise, même si c'est un two-factor authentication, ils vont quand même... Ils vont pouvoir... Tu sais, quelqu'un qui voudrait rentrer chez Bombardier, même s'il y a un tout effet.
Ah, si c'est la Russie ou la Chine, ce qu'on dit des fois en joke à nos clients, si t'as un nation state actor qui veut, à qui après toi, désolé, il n'y a personne qui peut rien pour toi, il va rentrer. Ils sont rentrés dans le gouvernement américain, etc. Si t'as vraiment quelqu'un de très mal intentionné qui a le temps et l'énergie, ben ça lui prend 8 mois, il va attendre 8 mois.
Tu sais, le temps, l'énergie, puis évidemment le cash pour.
Mais ce n'est pas la majorité de nos entreprises, là.
C'est ça. On a Loïc qui nous met un commentaire. Il dit qu'il y a un nouveau virus en Europe. Lorsque tu copies un IBAN pour faire tes paiements bancaires, il te colle un autre numéro de carte. Écoute,
J'ai vu passer quelque chose là-dessus, mais je ne l'avais pas lu encore, la news.
C'est quand même particulier. Ça, si je comprends bien, dans le fond, c'est que tu copies ton numéro de compte et quand tu le recopies, quand tu le colles, c'en est un autre. Fait que tu envoies l'argent à un mauvais endroit. Hey,
C'est élaboré, ouais.
C'est crasse.
Bah, le conseil, c'est vérifier. Surtout ceux qui sont en Europe, vérifier avant de cliquer sur Send.
Écoute, toujours vérifier. Ouais. Toujours vérifier.
Même des erreurs de copier-coller, ça peut arriver.
La technologie est là, puis ils vont sur la loi du moindre effort. Donc, on continue, Cindy. Dans le fond, comment on est venu à te lancer? C'est quoi le processus qui a fait que tu t'es lancé? C'est quoi un petit peu les étapes que vous avez prises, Nicolas et toi, pour lancer YAC?
D'abord, forcément, ça a été de qu'est-ce qu'on fait exactement, puisque la cybersécurité, c'est très large. Nous, on a fait le choix de vraiment se spécialiser. Il y a plusieurs raisons. First, effectivement, par rapport à notre duo, Nicolas est sur la sécurité offensive, on n'est pas sur les autres aspects. Et surtout, on a voulu vraiment être spécialisé pour plusieurs raisons. Un test d'intrusion, ça reste une fois, c'est plus sexy qu'un audit Excel, mais ça reste un audit. On check c'est quoi ta sécurité. Si on est aussi ceux qui mettons en place les recommandations, je trouve qu'il y a un petit conflit d'intérêts.
Okay.
Parce que je check ce que je fais. Et aussi, en étant très spécialisé, tous nos investissements, que ce soit en licence, en produits, en formation, on peut le mettre à une seule place. Notre objectif, c'est vraiment d'être excellent dans ce qu'on fait. Mm-hmm. Plus tu fais de choses, à moins d'avoir une équipe de 100 personnes en partant. Mais quand tu es petit, si tu veux tirer partout, tu peux pas mettre autant de budget partout et d'investissement. Donc, tu montes tranquillement si tu te spécialises sur quelque chose.
Puis, on en parlait avant le show, le cash flow is king.
Ouais.
Quand tu es une PME, une start-up, tu n'as pas des ressources financières illimitées, donc tu dois les mettre aux bons endroits. Il faut que tu sois stratégique. Si tu essaies d'être trop généraliste, de ce que j'entends, spécialement dans votre domaine, c'est qu'il y a tellement de choses que vous devez à payer que vous êtes juste en micro-surface.
C'est un petit peu, quand on regardait pour les outils, c'est sûr qu'on... Pas forcément sur des outils à 100 000 par année comme des très, très grosses entreprises peuvent le faire, mais parce qu'on a juste besoin de certains outils, on dit « OK, on va prendre tel outil parce qu'on sait qu'il est meilleur. Okay, » OK, il est plus cher, mais l'un dans l'autre, ça fait du sens. Et pour nous aider aussi là-dessus, on est allé chercher des financements, que ce soit avec Futurepreneur ou avec Evol, pour avoir justement en partant du cash flow disponible, ce qui permet d'alimenter la croissance sans stresser à chaque mois.
Donc,
est-ce que...
si on va dans ce processus-là, ouais. parce que c'est la première fois que j'ai un invité qui me parle de ça,
yes.
comment est-ce que vous êtes pris, là, vous avez monté votre plan d'affaires, vous allez aller, vous êtes allé rencontrer les gens de futurs preneurs de vol, puis
ouais, faut arriver prêt. C'était dans le sens où, quand on les a contactés, on avait un plan d'affaires d'une trentaine de pages rédigées avec les deux, profs disent qu'est-ce qu'ils veulent, mais qui est vraiment très monté. Et l'avantage, mm-hmm. c'est que souvent, quand je parle à du monde qui part en affaires, ton plan d'affaires, il est dans ta tête ou sur une one-pager. Là, vu qu'il faut ouais. que tu le défendes, en faisant cet exercice-là, tu viens aussi préciser. Parce que, tu sais, ouais. il te demande une étude de marché. Donc, il faut que tu l'aies faite. Et pas mm-hmm. juste, je pense que, à mon avis, il y a un moyen. Donc, c'est un bel exercice et il te demande un prévisionnel de 24 mois. C'est quoi tes D'accord. dépenses, c'est quoi tes ventes que tu estimes faire. Puis après, effectivement, tu t'assignes un coach au début qui va te challenger un petit peu sur tes documents. Quand il considère que c'est bon, t'es prêt, ton dossier, il est solide, là, tu passes au jury. Et après, okay. Il te prête de l'argent. Puis, c'est un prêt, c'est sur des financements, c'est pas des subventions. Il faut le rembourser.
OK, d'accord. Donc, vous avez financé votre fonds de roulement au départ. Ouais. C'est ça que je comprends.
Ouais.
Et là, ça vous a permis d'acheter des outils.
Oui, d'acheter des outils, de moins se poser la question, parce que on est dans le meeting des ventes. Hein. Le développement mm-hmm. des affaires, c'est le nerf de la guerre. Il y a mmh. du développement d'affaires gratuit, mais aller à des événements, sponsoriser d'autres événements, ça demande de l'argent. Donc,
ouais.
si tu attends, enfin, tu as besoin de ça pour générer des leads, si tu attends d'avoir fait des ventes pour te payer ces dépenses-là, c'est un petit peu un cercle vicieux. Là, ça permet de dire, OK, on peut investir dans le développement d'affaires, ce qui va à terme générer.
Donc, ça te permet d'appuyer sur l'accélérateur beaucoup ouais. plus rapidement, puis
Exactement.
D'avancer.
De moins se poser la question tout le temps.
Parce qu'effectivement, tu sais, on va se le dire, faire du réseautage, faire du développement d'affaires. Oui, comme tu as dit, il y en a du gratuit, mais si tu veux que ça rapporte rapidement, ça prend du cash. Donc,
ouais, vous, c'est ça, rendu cher, hein, les événements de réseautage.
Ben, puis faut en faire, tu sais, j'en parle souvent, mais Sylvain Boudreau dit que c'est lui en fait 3 par mois. Je sais pas, toi, ce que tu fais de ce côté-là, côté réseautage, mais à 3 par mois, mais qu'on le met à... C'est pas énorme, mais c'est 50. Fait que 3 fois 50, c'est 150. Plus.
Ouais, je vais à un événement semaine prochaine. Mes deux événements du mois de mars, c'est plus de 200 piastres chaque.
Ben, c'est ça.
Ça va vite.
Qu'est-ce que tu fais justement comme réseautage? Tes clients, tu vas les chercher où? Ton développement d'affaires se fait comment?
J'ai choisi, on va dire, deux cercles qui, pour moi, font le plus de sens. Il y a la Chambre de commerce française à Québec.
Oui.
Et en plus, l'avantage, c'est parce qu'on s'est revu, réaperçu de même, c'est que ça ouvre les portes à la Chambre de Lévis, de Québec et à la Jeune Chambre oui. de Québec. Donc, je trouve ça intéressant. C'est des beaux événements. Les gens qui sont là, c'est vraiment des bonnes personnes. Est-ce que j'ai trouvé des leads directement par rapport à ça? Pas forcément. Mais tu fais des rencontres, tu connectes. Et
exact.
J'ai quand même rencontré des gens vraiment intéressants et pour des collaborations potentielles. Et l'autre événement, c'est que nous, on travaille beaucoup avec le manufacturier.
Oui.
Donc, je suis présente à tous les événements de la STIC.
OK.
J'ai oublié ce que ça voulait dire, les lettres, mais c'est un regroupement de manufacturiers.
D'accord. Puis, est-ce que tu vois dans les trucs comme, je sais que ça s'en vient dans les prochaines semaines, là, le salon industriel, je ne sais pas, il doit être à...
Je crois que c'est à Drummondville.
À Drummondville cette année?
Je me suis inscrite, toi. Je vais y aller. Je ne suis pas exposante, je ne suis jamais allée, mais je vais me visiter là-bas et voir effectivement ce que vaut l'événement. Et pourquoi pas exposer un jour.
Là, ça m'amène une question. Dans votre business, tu dis que vous êtes spécialisé dans le manufacturier. Allez-vous jusqu'à faire de la cybersécurité sur le IoT?
On aimerait ça, mais les entreprises ne sont pas rendues là.
OK.
Pour l'instant, ce qu'on va vraiment regarder, c'est des tests d'intrusion, on va dire, global. Qu'on est capable? Parce qu'au final, oui, si on a que l'entreprise, on va être capable d'arrêter la chaîne de prod. Mais c'est comme sur ce qu'on fait, on pourrait aller beaucoup plus loin. Est-ce que les très grandes entreprises font? De ne pas faire de assume breach, c'est vraiment de dire, OK, on essaie de te hacker, tous les coups sont permis, on peut faire de la test d'intrusion physique, rentrer dans les bâtiments, faire nos campagnes d'ingénierie sociale, etc. Mais tout ce temps-là, c'est du temps qui est facturable. On parle souvent de budget de 80 et 100 000 pour ce type de test. Les PME québécois ne sont pas rendus là. Dans la majorité des cas, on fait le premier test. Elles ont déjà assez à faire à l'issue du rapport. Si on arrive avec ça de vulnérabilité à corriger, ils ne vont juste pas le faire. On est plus en mode itératif. L'IoT et l'OT, oui, on est capable de le faire, on veut s'en aller là, mais pour l'instant, les entreprises ne sont pas rendues.
Non, bien, effectivement, je ne pensais pas. C'est sûr que ça monte vite, je veux dire, avec ce que tu viens de dire là, si on fait des campagnes de financement, mais une campagne de phishing, tu vas sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses.
paye le temps d'une personne, imagine le temps que ça prend de faire tout ça. C'est pour ça que c'est très cher. C'est que ben justement, tu as tout le temps de recherche sur l'information. Nous, en faisant des scénarios Assume Rich, on estime qu'on a fait tout ça et on a réussi. Quelqu'un qui a le temps, il va trouver ce genre d'informations, surtout quand tu es rendu, à ce début, à ce niveau-là. Donc, on sauve ce temps-là et on se concentre directement et on donne plus de valeur de cette manière-là.
OK. OK. Intéressant. Puis, dans le fond, mais si je reviens, dans le fond, c'est ton développement d'affaires, tu le fais sur ces trois pôles-là. Ou comment tu t'y prends pour trouver un client? C'est qui ta clientèle? Tu m'as dit le manufacturier, mais c'est quand même large. Est-ce que tu as des
entreprises de 100 employés? En général, ça va être entreprise de 100 employés et plus pour que notre test d'intrusion ait un rapport valeur-coût intéressant. On peut le faire pour des plus petites. Ça peut être intéressant, mais souvent, elles sont encore plus loin en plus dans leur maturité et j'estime qu'ils ont d'autres choses à mettre en place en cybersécurité d'abord, avant que ça vaille la peine. Là, c'est manufacturier. On travaille aussi beaucoup avec des startups pour tout ce qui va être développement d'applications SaaS, toutes les applications qu'on voit en ligne. Il faut les sécuriser et souvent, ils se font challenger par les investisseurs. S'ils travaillent dans la santé, ils ont besoin d'avoir des certifications spécifiques avec des requis de sécurité. Donc, c'est pas mal les deux angles. On peut travailler avec tous les autres types d'entreprises. Hein. On a travaillé avec des villes, avec des entreprises dans d'autres domaines d'activité. Là, j'ai comme pas d'exemple qui me pop tout de suite.
Ouais,
mais mettons que notre effort de développement d'affaires, on le met là.
OK. OK.
Ah oui, c'est beaucoup de références pour notre développement d'affaires. On a de la chance d'avoir beaucoup de personnes qui nous réfèrent des clients.
Donc, le fameux bouche-à-oreille. Une entreprise qui a fait affaire avec IAC dit à son body, écoute, appelle-les. Moi, je pensais que j'avais pas de problème, puis ils ont trouvé ça, ça, ça. C'est comme
exactement.
Ça,
c'est là où le réseautage, je le vois de même. C'est pas forcément trouver un client, mais à force de parler à du monde, quelqu'un va entendre parler d'un besoin et va te pas.
OK.
C'est un bon effet boule de neige, ouais.
Travailles-tu en partenariat? Est-ce qu'il y a une partie, tu sais, parce que vous êtes hyper niché. Est-ce qu'il y a des entreprises avec lesquelles tu travailles qui vous aident, qui vous demandent sur des contrats?
Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas mis dans notre plan d'affaires, on l'avait sous-estimé. Mais comme on est super spécialisé, il y a des entreprises en cyber ou en TI en général qui ne font pas de tests d'intrusion. Mais c'est délicat d'aller demander à quelqu'un d'autre qui fait aussi leur service. Il y a un volet conflit d'intérêts potentiel. Ouais. Moi, si tu me réfères un pentest et que tu fais la loi 25, j'en toucherai pas ta loi 25. Ce n'est pas notre corde. Donc, on a créé des partenariats comme avec Efficio ou Assurance IT, par exemple.
Okay.
Justement, on est en mode référencement. On s'entraide, on fait des dossiers ensemble. Parce que nous aussi, on est très spécialisés, mais j'aime pas ça juste dire non à un client. Dire non, je le fais pas, mais voici une entreprise en qui j'ai confiance, on a déjà travaillé avec eux, ils ont des beaux résultats. Donc, on crée comme un écosystème.
Oui.
Et chacun a sa spécialité, chacun est très bon dans ce qu'il fait et on se réfère.
On le voit de plus en plus, ce modèle d'affaires-là, de hyper spécialisation dans je fais une chose, je la fais très, très, très bien. La case à côté, j'y touche pas, mais j'ai un partner avec qui j'ai des relations d'affaires que je connais très bien qui peut le faire.
Ouais. Et en référencement, parce que le fait je trouve que de vendre le service de quelqu'un d'autre, on est bon, on connaît ce qu'on fait. Donc moi, je préfère dire, hey, tu qualifies le lead, hein, t'en vas pas n'importe quoi, mais tu qualifies le lead, tu l'envoies, la personne, elle gère sa vente. Parce que c'est eux qui connaissent leur produit, c'est moi qui connais mon produit. Donc je pense que ça. Et le client, il fait sa décision tout seul, tu sais, il va. Même si on peut référer plusieurs personnes pour qu'il y ait du choix, on va le faire avec plaisir aussi.
Okay.
Mais ça permet de garantir, quand même, de conseiller, de rendre service à la personne qui te demande une question. Mais tu restes dans ce que tu sais faire.
Oui, ben c'est un beau modèle d'affaires en soi. Cindy, dans ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce que tu dirais qui t'a le plus aidé? Qu'est-ce qui t'a aidé à te développer?
À avoir touché à tout.
OK.
Que ce soit dans ma dernière expérience, j'ai bâti l'équipe. J'étais une des premières employées et on s'est rendu à plus de 20. Fait que tout le volet RH, recrutement, on partait de rien. Fait que même l'offre de service, tout créé, pareil pour le marketing. Juste le volet comptabilité que j'avais moins, mais on se fait accompagner pour ça. Donc, c'est le fait d'avoir déjà touché à tout, d'avoir travaillé dans différentes industries. Dis-moi, j'étais en hôtellerie, en automobile. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais j'ai fait un crochet par l'ingénierie. Voyagé et travaillé dans plusieurs pays dans le monde. Le fait d'avoir touché un petit peu à tout, j'ai une facilité à connecter aussi le volet enjeu d'affaires. Parce que des fois, une des difficultés dans n'importe quel domaine technique, c'est que les gens qui sont très bons en technique ont moins le volet réalité d'affaires. Nous, on a les deux, que ce soit par mon expérience ou même Nicolas, qui, on le décrit souvent comme l'entrepreneur tech inversé. Il a d'abord été entrepreneur dans des domaines qui n'avaient pas rapport avec la tech, et il a découvert la tech plus tard. Et qui comprend aussi très bien la réalité business. Donc, on adapte nos recommandations aussi par rapport à ça. On sait c'est quoi ce que le client y vit. Quelles questions poser si on ne sait pas.
OK, intéressant. Donc, une certaine versatilité, puis une ouverture de tes connaissances qui fait que tu considères, tu sais, en fait, on va dire ton parcours atypique, où tu es rendu aujourd'hui, fait que tu considères que tu es une meilleure entrepreneur.
Ouais. Et que j'ai toujours été team prise de risque. J'ai pris beaucoup de risques dans ma vie, fait que c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Que ce soit en immigrant trois fois ou...
Trois fois? Changement...
Australie, pas. Deux-ish, c'était quelques mois, mais j'ai vécu à Madrid, j'ai vécu en Australie, j'ai vécu ici. Et à chaque fois, t'arrêtes tout et tu repars.
Ouais, c'est de sortir de sa zone de confort. Là. Je veux dire, si les gens ne l'ont pas remarqué, tu l'as dit tout à l'heure, tu es française, aller vivre en Australie. À ma connaissance, l'Australie parle anglais. Mais c'est un anglais qui peut être un peu particulier.
Si tu es dans les grandes villes, ça va. Quand tu commences à voyager et que tu pars vers le centre,
t'es mieux d'être attentif, là.
Mais t'apprends, tu es challengé. C'est même pas les accents, c'est qu'ils ont beaucoup de particularités, de mots comme... Genre, Australie, ils disent Aussie. Barbecue, c'est Barbie. Il y a tout qui est abrégé. Afternoon, Arvo. Il y a plein de petits mots. Au début, t'es là, quoi? Mais avec le temps...
Ben, le slang est toujours... C'est là que tu découvres que tu peux parler une langue. C'est quand tu comprends ce slang-là. Puis tu peux
et quand tu fais une joke... Quand tu crées une joke dans une autre langue, c'est là où tu comprends que ton cerveau, il a basculé.
Ben, je ne sais pas pour toi, moi je l'ai vécu, j'ai fait cette réalisation-là quand je me suis réveillé un matin, puis j'ai réalisé que je viens de rêver en anglais.
En anglais, ouais. Depuis l'Australie, mon cerveau n'a jamais rebasculé, je pense en anglais.
Ah oui?
C'est weird, ouais.
OK. Ben tu vois, moi depuis, je le dis souvent, mais depuis le début des années 2000, je vis en anglais. J'habite au Québec, mais ma vie, comme toi, ce qui se passe dans ma tête est beaucoup plus en anglais qu'en français.
Tu feras attention, tu t'en rends pas compte un coup, mais à un moment donné, tu te parles et tu fais « Je me parle-tu en anglais? »
En fait, moi, j'ai un petit flou artistique dans ma langue interne, j'ai un petit flou artistique, c'est la moitié français, la moitié anglais, puis on va très, très bien. Y a-t-il d'autres choses que tu as faites que tu considères qui ont été des avantages qui t'ont aidé à progresser rapidement?
Le réseau. On en revient toujours à la force du réseau, c'est d'être bien entouré. Comme dit, ça a été des gens qui nous ont conseillé dans notre développement, qui nous ont encouragés. C'est toujours le fun d'avoir du monde qui te pousse et qui te dit vas-y, t'es capable et à qui échanger. Et aussi, si on a réussi, c'est qu'on avait quand même beaucoup de contacts à la base et des clients, on en a eu avant notre lancement officiel.
OK.
Donc, c'est ce que je recommande aussi beaucoup. On en revient au réseautage et au développement d'affaires. Et c'est pas des gens que j'aurais pensé qui pourraient m'aider avant. Tu rencontres du monde et on minimise ça. Et là, je parlais du Québec. Je réseautais beaucoup moins en France. Mais on a une belle communauté. Les gens s'aident par nature. Aident les autres et les gens vont t'aider. J'y crois. C'est quand tu donnes un nouveau projet. J'étais impressionnée par le nombre de gens qui voulaient nous aider, même en cybersécurité, sur la communauté. Parce qu'au final, on ramène un énième compétiteur. Tu sais jamais comment ça va être accueilli. Il y a plein de gens qui nous ont encouragés, qui nous ont aidés, même des compétiteurs. Donc, je trouve ça beau, en fait, de justement avoir cette vibe et s'aider les uns les autres à monter. Surtout en cybersécurité, il y a de la place. Là. On n'est pas rendu à un marché extrêmement saturé où tu dis « Oh non, si toi, tu vends, moi, j'ai perdu des parts de marché. » Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont encore rien fait en cyber au Québec. Le gâteau, il est assez grand pour tout le monde.
Ça demeure malgré que, tu sais, bon, le web, puis ça fait 30 ans que... Ça fait 25-30 ans que ça roule. Par contre, ça demeure une réalité relativement nouvelle. Comme conscientisation, ça fait pas des années qu'on parle de cybersécurité. C'est sûr que quand j'étais chez Canadian Tire, début des années 2000, tu sais, ils commençaient à nous parler de faire attention à nos passwords, puis barrer nos écrans quand on quittait notre poste de travail. Mais c'était à peu près tout.
Mais c'est comme ça, aussi le manufacturier, c'est un des enjeux, c'est quand tout leur réseau a été monté, on remonte à quelques dizaines d'années, on n'en parlait pas de cyber. Mm-hmm. Et c'est différentes personnes qui ont pris le rôle directeur TI, et souvent, ils sont même encore aujourd'hui, ils ne sont pas assez nombreux pour la job qu'il y a à faire. On arrive avec des réseaux patchwork qui ont été mal configurés dans les années 2000. Après, ils ont rajouté par-dessus. Forcément, il y a des trous, il y a des failles.
OK.
Parce que ce n'est pas dans leur priorité de se dire « Hey, on va arrêter aujourd'hui, se poser la question et on va tout mettre correctement. » Ils n'ont pas le temps.
Ils n'ont pas le temps.
Et puis... c'est comme dans les recommandations, les mises à jour, ça ne marche pas. Ça. On parle de réalité d'affaires. On ne peut pas dire à un manufacturier « OK, il faut que tu mettes tout à jour. » Parce que tu as des machines dans l'usine qui ne se mettent plus à jour depuis un bout. Pour la mettre à jour, il faut que tu investisses une coupe de millions pour remettre toutes tes machines à jour. Alors oui, dans un monde idéal, fais ça, mais ce n'est pas une recommandation qui est réaliste demain matin. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de mitiger le risque ? Mêler dans un coin toute seule, par exemple.
Mais là, sur un réseau...
Isoler pour qu'au moins, si jamais elle se fait attaquer, elle se fait attaquer toute seule et pas toute une entreprise. Mais c'est justement de comprendre la réalité. C'est... la cyber doit aider l'entreprise à faire sa business.
Mm-hmm. Voilà, parce qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure, mais cash flow is king.
Ouais.
Même une PME de 100 employés qui roule 125 millions par année n'a pas un cash flow infini. À un moment donné, ils ont un budget et ils disent ben, « on peut investir ça
». Ça, c'est un point, mais ils sont peut-être challengés par leurs employés qui demandent une augmentation de salaire. Il y a un nouveau produit, une nouvelle machine. Ils ont plein d'autres besoins en même temps et on le comprend. Donc, c'est ça qu'il faut regarder aussi. Ben, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour au moins mitiger ton risque ? Et après, ben, dans les 3 années qui suivent, ce serait intéressant de faire ça. Et dans ce cadre-ci, on irait même le jumeler à... c'est un projet de transformation numérique. Et en tête que tes machines, ce serait le fun de les changer. C'est de le voir global et de ne pas juste penser cybersécurité.
Mm-hmm. OK, c'est intéressant. Donc, puis vous, dans cette IAC, dans tout ça, vous occupez de vraiment là, identifier où sont les risques. Ouais. Ensuite de ça, vous passez la POC à quelqu'un d'autre pour
on reste dans le décor. On a rajouté des heures de consultation avec le client justement pour les aider à agir, pour brainstormer sur les recommandations dans leur contexte ou pour avoir on peut leur montrer des outils gratuits intéressants également qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes pour un petit peu avoir une meilleure connaissance de leur cyber par eux-mêmes sans devoir tout le temps appeler un consultant externe. Mais l'idée, ouais, c'est que nous, on ne met pas en place les recommandations. On peut recommander des outils, par exemple, tout ce qui va être EDR. EDR, c'est les antivirus sous stéroïdes, c'est ce qu'on a maintenant dans les entreprises. On peut dire lequel fait le plus sacré, Nicolas.
OK.
Mais on ne revend pas le produit, fait qu'on n'est pas en train de te pousser un produit pour se faire une cote. Mais on va juste te dire lequel on passe, genre, il ne remarque rien. Ou... on fonctionne au sacre de Nicolas, c'est notre barre de...
Ah oui, OK, plus il sac, meilleur est le produit.
Ouais, c'est ça.
OK. Puis, si je te demandais, c'est quoi les recommandations, là, tu dis la base qu'une PME au Québec devrait avoir. On a parlé d'un gestionnaire de mots de passe. Est-ce qu'il y a d'autres choses là, que tu pourrais nous recommander rapidement?
Attends, juste regarder mon récap. Je donne justement une conférence demain pour une TPE sur les points. Donc, ouais, gestionnaire de mots de passe, c'est MFA. C'est, honnêtement, si vous en retenez que un, gestion de votre mot de passe et vous assurer que vos employés le font aussi.
Ouais.
On a parlé de l'EDR sur l'ordinateur. C'est hyper important. Ça vient quand même bloquer beaucoup d'attaques. Et les prix ne sont pas si élevés que ça. On a eu une surprise avant avec Nicolas, c'est nos laptops personnels. On avait des antivirus, oui, sur Mac. On mettait également des antivirus sur Mac. Mmh. On avait des choses basiques et on paye le même prix pour du professionnel. Fait que ce n'est pas forcément si coûteux.
Okay.
Les backups. Et pensez à backuper votre cloud aussi.
Oui, hein.
Parce qu'on se dit, ah, mais c'est sur Google, Microsoft, Box ou whatever, mais s'il se passe quelque chose, vous perdez quand même vos données.
Parce que, effectivement, parce que si on regarde les licences d'utilisation sur ces plateformes-là, eux, ils nous offrent de l'espace.
Ouais.
Mais si on se fait hacker puis que le hacker wipe tout ça, ils sont pas responsables de nous refourner nos données.
Non. Donc, avoir des solutions de backup sur vos laptops, enfin, sur vos ordinateurs en général, sur vos serveurs et sur le cloud. On oublie souvent le cloud en se disant, ah, on est safe. Non.
Ouais,
il existe, nous, c'est Cloud Ally qu'on utilise, par exemple. Il y a des solutions qui existent pour backuper ton cloud.
OK.
Donc, ça, c'est vraiment important. Si tu te fais hacker, justement, mais que tu as un bon backup, que tu as testé pour voir si tu y accèdes bien, ben, tu wipes tout et tu recommences. Mais si là où l'entreprise ferme souvent, c'est que les backups ont été compromis.
Mm-hmm.
Ta propriété intellectuelle, tes données clients, ça peut tuer ton entreprise littéralement. Donc, les backups sont extrêmement importants.
OK.
Je n'irai pas trop dans le détail, mais ceux qui sont un peu plus techno, allez mettre votre site web derrière Cloudflare. C'est gratuit. Ça vous protège votre site web de plein d'attaques. Et ils ont d'autres options quand tu es moins de 50 employés comme Zero Trust qui sont intéressantes, mais je vois le temps qui passe et c'est un petit peu long, mais
c'est quand même technique. c'est intéressant quand même de dire. Fait qu'il y a plusieurs choses qu'on doit faire. Si on retient le gestionnaire de mots, tu sais, en ordre de priorité, gestionnaire de mots de passe, si les gens qui nous écoutent ce matin n'avaient qu'une seule chose à faire, c'est allez, mettez ça, mettez-le sur toutes tous vos appareils, puis arrêtez de vous casser la tête. Deuxième chose, installez-vous un bon antivirus sur votre poste de travail. Troisième chose, tu as dit, c'était...
Les backups.
D'avoir des backups. Puis...
Commencer par ça, ça devrait déjà être mieux. Après, il y a beaucoup d'autres choses que tu peux faire, mais si tu as des bons mots de passe, moins de chances de te faire compromettre. Si tu as des backups, si ça arrive, ben, tu as comme une solution pour récupérer tes données.
Oui.
Et puis... je dis ça pro, mais perso aussi, tu n'as pas envie de perdre tes photos, par exemple. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune où mon disque dur de mon laptop avait lâché et j'avais pas de backup de mes photos et j'ai perdu 3 ans de photos de ma vie. Écoute, c'était avant l'époque d'auto-sauvegarde.
Moi, ça, c'est un iPhone que j'avais et que j'ai pas fait le backup. Je l'ai échappé dans une flaque d'eau.
Oupsie.
Et il est mort. Et j'avais un paquet de photos. Tu sais, fait que j'ai grosso modo, j'ai un an de photos que j'ai pas nulle part. Ouais. Ça m'est arrivé.
C'est pas business, mais c'est plate. Nos photos, c'est on plate, y tient. Parce que tu peux pas les refaire, tes photos.
Non. Le voyage de moto, les photos sont disparues. C'est plate, mais c'est ça.
Pro et perso, faites vos backups, ayez des bons mots de passe. Et là, s'il y a une adresse courriel, s'il y a un compte à sécuriser, plus que tout, c'est votre adresse courriel.
Ah oui?
Oui. Parce que si tu vas sur n'importe quelle plateforme, Facebook, LinkedIn, whatever, tu sais, il y a un petit bouton, j'ai oublié mon mot de passe. Mm-hmm. Si votre adresse courriel a été compromise, le hacker y a accès et après, il peut aller sur tous vos comptes et juste faire « j'ai oublié mon mot de passe » et il va se faire shooter les liens de réinitialisation partout et vous perdez toutes. La banque, je ne le dis pas parce que les banques vous obligent dans tous les cas à le faire. Fait que vous n'avez comme pas le choix là, d'avoir des mots de passe et du tout effet. Mais votre adresse courriel principale, c'est extrêmement important.
C'est un must. Cool. Écoute, merci Cindy. C'était super intéressant d'apprendre sur ton parcours, mais d'apprendre aussi sur le domaine. Je pense que tu sais, on pourrait en parler pendant des heures. C'est tellement un sujet pertinent qui peut avoir un impact majeur sur nos business. Puis tu sais, oui, c'est un show de vente, développement des affaires, mais on s'entend là. Si ta business n'est pas sécure, tu peux pas vendre. Si tu es en situation de crise, tu es crypto-locké, oublie ça, là, ça sert à rien.
Je finirais sur un article que j'avais fait sur « Vous êtes le maillon faible » où j'avais fait cette analogie-là. Ouais. Quand tes ventes diminuent, tu sais que ta business elle est en risque, mais tu as le temps, tu as quand même du temps pour aller mettre en place une stratégie et essayer de remonter tes ventes.
Ouais.
Si tu tapes un ransomware, c'est du jour au lendemain et c'est fini.
C'est une switch. Là. C'est pas un dimmer, c'est une switch, c'est terminé. Merci, bonjour.
Donc, on investit beaucoup dans les ventes pour pas que ce ralentissement arrive. Investis dans votre cybersécurité parce que c'est encore plus violent.
Good. Écoute, Cindy, merci de ta présence. Si les gens voulaient prendre contact avec toi, voulaient communiquer avec toi, comment on peut s'y prendre?
Je peux te l'écrire dans le chat. Je vais l'écrire dans le chat privé, tu pourras le copier-coller.
D'accord.
Sûr qu'on a notre site web. Sinon, je ne sais pas si mon LinkedIn.
Ouais, je vais.
Et mon courriel, je mets ici.
Je vais le mettre ensuite, mais c'est Cindy Feltz, F-E-L-T-Z. C'est la meilleure façon, je pense. Il ne doit pas en avoir 80.
Non.
Donc, de connecter via LinkedIn. Et je vais le mettre rapidement.
Je peux chercher mon lien rapidement, sinon.
Bon, je vais mettre juste le site web, Cindy, puis les gens pourront communiquer avec toi de cette façon-là. Écoute, yes. Je te remercie, puis on se dit à la prochaine.
Yes, merci beaucoup, Simon.
Bye. Bye. C'était Cindy Feltz de Yak. Vous pouvez la rejoindre à yak.one. Il y a aussi, je l'ai dit tout à l'heure, le sauvonslespandas.com pour son initiative justement pour sauver les pandas. Elle peut être rejointe par adresse courriel à Cindy, C-Y-N-D-I-E, à commercial Yak. YACK.one. C'était le show 84 du meeting des ventes du lundi. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris des choses. Si on récapitule rapidement, en fait, Cindy nous disait d'avoir un gestionnaire de mots de passe, un bon antivirus, puis de faire des backups. Je vous le recommande aussi. Donc, allez faire ça ce matin. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.